Matière à penser, Dominique Rousset.
Bonsoir à tous et c'est la suite de notre série de cette semaine autour de charité, dons, mécénat et philanthropie, différentes manières de vouloir le bien d'autrui. Et c'est de mécénat que nous parlons ce soir, notre troisième volet en compagnie d'un grand spécialiste puisqu'il s'agit du président de l'ADMICAL, grande association ancienne déjà, avec une longue expérience. Son président, François Debiez, que je salue. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Le mécénat, donc, nous parlons avec vous. L'ADMICAL, je l'ai dit, une association parmi d'autres. Hein, vous n'êtes pas évidemment les seuls. Est-ce qu'on peut rappeler d'ailleurs son histoire? Je me souviens de Jacques Rigaud qui avait créé cette grande association, c'était en...
Alors, vous dites vous n'êtes pas les seuls. Nous ne sommes plus les seuls parce qu'effectivement, l'ADMICAL a été la seule pendant
premiers.
Des années. En fait, cette association a une histoire qui est assez rigolote. Jacques Rigaud, en 79, donc il y a 40 ans exactement, est parti aux États-Unis faire un voyage touristique, personnel, avec des copains. Et il est rentré fasciné par le développement de la philanthropie individuelle qu'il a constaté aux États-Unis. Je dis bien philanthropie individuelle. Il est rentré en France, il a constaté qu'il existait en France pour le mécénat d'entreprise un cadre qui avait été posé par André Malraux, ministre de la Culture, bien des années auparavant, pas loin de 20 ans auparavant, et que ce cadre n'avait jamais été rempli. En fait, le mécénat n'existait pratiquement pas. Et donc, il crée ADMICAL, qui à l'époque, ADMICAL, ça avait un sens, ça voulait dire Association pour le développement du mécénat industriel et commercial. Plus personne ne sait ce que ça veut dire, et d'ailleurs on ne souhaite pas réutiliser, se développer.
Non, mais c'était bien trouvé en plus, ça sonne bien.
Et avec pour vocation de faire tout ce qui était nécessaire pour développer le mécénat des entreprises. Et j'ai envie de dire, le coup de peau qu'a eu Jacques, c'est que un an après la création d'ADMICAL, Mitterrand arrivait au pouvoir. Toutes les grandes entreprises du CAC 40 ont eu besoin de se faire une bonne image dans ce monde socialiste qui, a priori, ne les aimait pas beaucoup, et ont eu une opportunité de pouvoir démontrer leur capacité à désintéressement et à faire autre chose que de cracher du fric, si vous me passez l'expression, parce que Jack Lang, qui était ministre de la Culture à l'époque, a fait un travail de rajeunissement formidable du monde de la culture, un grand souffle de jeunesse et de dynamisme est passé sur les musées, il a créé des festivals, enfin bon, toutes les occasions ont été bonnes pour mettre l'accent sur la culture, et les grandes entreprises se sont dit, ben voilà un thème formidable pour montrer qu'on peut être désintéressé. Il faut rappeler quand même qu'à l'époque, l'économie française se portait bien encore. Hein. La société française se portait beaucoup moins mal qu'aujourd'hui. Peut-être que le feu couvait sous la cendre, mais en tout cas, ça ne se voyait pas encore. Et donc, il n'y avait pas d'urgence sociétale. Le thème culturel était un bon thème pour les entreprises pour s'engouffrer dans le mécénat.
C'est très intéressant que vous démarriez avec le thème culturel, puisqu'on va avoir l'occasion d'en reparler beaucoup. Et puis, bien sûr, ensuite, il y a eu les enjeux sociétaux, environnementaux.
Oui, mais c'est venu bien plus tard.
Bien plus tard, dont on va reparler. Je voulais juste rappeler, François Debiez, 2019, donc celle que nous venons de vivre, a été une année d'actualité importante et de polémique d'ailleurs pour le mécénat d'entreprise, et des modifications des mesures fiscales qui sont à l'origine de votre mécontentement, je crois qu'on peut en parler comme ça, vous allez nous le démontrer, dans le projet de loi de finances 2020. En clair, une réduction de l'avantage fiscal qui était à 60%, qui va être réduit à 40%, donc beaucoup de débats, beaucoup de controverses sur le sens du mécénat d'entreprise, sur ses missions et donc sur ses subventions jugées à présent trop élevé. Tant et si bien que le 1er octobre dernier, votre quatrième édition de rencontre autour du mécénat d'entreprise, qui a eu lieu au Collège de France, avait pris ce thème que moi je trouve assez provocateur. Faut-il en finir avec le mécénat? C'est donc que vous avez mal pris, disons, cette réduction de l'avantage fiscal.
Alors, mal pris, c'est pas un propos communautariste ou personnel d'une quelconque façon. Ça part juste d'une analyse de ce qu'est la société française aujourd'hui, de ce que sont ses besoins et de la position de la puissance publique par rapport à ses besoins. Quand on regarde l'état de la société française, on voit que c'est une société qui est en souffrance, c'est une société qui est fracturée, c'est une société dans laquelle il y a des communautés qui s'ignorent au mieux, voire quand elles ne se tapent pas dessus. C'est une société dans laquelle le clivage entre le monde public et le monde privé, qui est une caractéristique historique de la société française, n'est pas encore complètement tombé. C'est une société dans laquelle l'entreprise n'est pas très bien ressentie, en tout cas elle est mal connue et elle est volontiers taxée d'objectifs de cupidité. Et donc c'est une société dans laquelle il y a de très grands besoins, des besoins qui sont sociaux essentiellement, culturels aussi, mais les urgences apparaissent dans le domaine social. Et face à ces besoins et à ces urgences, eh bien, la ressource publique traditionnelle, sortie de la poche des contribuables, est devenue insuffisante. Il y a, à nos yeux, une nécessité absolue à engager le maximum de privés, entre guillemets, c'est-à-dire à la fois des entreprises et des particuliers, dans la construction d'une société un peu moins brutale, un peu moins injuste que la société d'aujourd'hui.
C'est assez frappant que vous mentionniez deux fois, au fond, en 79 et aujourd'hui, l'image de l'entreprise. La société française est décidément assez, en tout cas ce que vous ressentez, plutôt hostile à l'entreprise en général, sans bien le définir de quoi l'on parle.
Alors, je pense qu'il y a eu quand même une petite évolution qu'on ressent quand on se balade notamment dans les régions françaises. C'est que ce que vous venez de dire et que j'avais un peu annoncé auparavant est moins vrai pour les entreprises de petite et moyenne dimension en région. Parce que leur impact, si je puis dire, leur action économique en matière d'emploi, mais aussi leur capacité à s'impliquer dans les territoires, est mieux ressentie. Et ce sont plutôt aujourd'hui les grandes entreprises qui sont dans le collimateur. Quand je dis collimateur, c'est à la fois la puissance publique, à la fois les médias, et puis le grand public en général qui reçoit les informations descendantes. Et dans les intentions du gouvernement, ce qu'il est en train de mettre en œuvre sur le mécénat, provient directement de cette analyse sur le mécénat des grandes entreprises et du constat que ce mécénat, un, coûte trop cher à l'État, coûterait trop cher à l'État. Je mets des guillemets à coûterait parce que...
Vous allez répondre là-dessus,
lieu, voilà,
bien sûr.
Et par ailleurs, ne serait pas complètement désintéressé.
Voilà.
Alors, il y a eu deux origines principales à ce mouvement qui a démarré, les conversations ont démarré il n'y a pas loin de 2 ans maintenant. Le premier élément, une analyse du cas, entre guillemets, de la Fondation LVMH, bien des années après son ouverture, pour constater que c'était un dossier qui avait coûté très cher, mais même s'il a eu, évidemment, tous les accords, tous les tampons de Bercy, etc., tout ça s'est fait parfaitement dans les règles, mais ça a été effectivement un gros chantier. Et puis, il y a eu un rapport, alors plus récemment, un rapport de la Cour des comptes qui a souligné qu'effectivement, le mécénat des grandes entreprises pouvait donner lieu à ce que la Cour a appelé des dérives, mais qui a aussi pointé le fait que l'administration fiscale et Bercy ne faisaient pas du tout de contrôle, alors même qu'il y aurait matière à suivre, à surveiller, à contrôler ce qui se fait en matière de mécénat, parce que dans ce domaine comme dans d'autres, même si c'est rare, il peut effectivement y avoir des excès ou des dérives.
Voici posé donc le cadre dans lequel vous vous trouvez à présent. Et si vous le permettez, avant de revenir à ces deux éléments que vous mentionnez, j'aimerais qu'on remonte un peu sur l'histoire et sur le développement du mécénat. Développement continu, il faut quand même s'en féliciter, tant en valeur qu'en nombre d'entreprises. Il y a de plus en plus d'entreprises mécènes, même si je crois, vous François Debiaz, vous jugez que c'est pas tout à fait assez encore. 9% en fait d'entreprises mécènes en 2017.
Oui.
Alors sur le budget, là aussi vous avez une petite différence avec la direction générale donc des finances qui concerne les dons déduits, ce fameux don déduit au titre du mécénat. Eux nous disent, le ministère, que effectivement ce nombre a doublé en à peine une dizaine d'années. Il y aurait aujourd'hui, d'après lui, autour de 82 000 entreprises en 2017. On remonte à 2017. Et dont les dons devraient atteindre 2 milliards d'euros. Vous avez une vision un peu plus optimiste d'ailleurs, même si 9% d'entreprises, je l'ai dit, pour un budget qui serait quand même compris entre 3 et 3,6 milliards d'euros. Je le dis,
c'est
encore trop peu. Sans doute, on peut faire mieux, mais d'où vient cette différence? Elle est importante dans le débat qui vous occupe
actuellement. Alors, la différence. Alors, d'abord, je tiens à dire que pendant des années, on a eu une approche, une méthodologie en matière de baromètre sur le mécénat qui n'intégrait pas suffisamment, à leurs yeux, et c'était vrai, les chiffres de Bercy et des différents ministères. Donc, au dernier baromètre, on s'est calé sur leurs chiffres, et la différence, elle tient à un phénomène très clair, et ça qu'on a retrouvé dans tous nos baromètres depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis 15 ans, pratiquement une entreprise sur deux qui fait du mécénat ne défiscalise pas. Alors ça, on peut s'interroger sur le sujet, et d'ailleurs nos interlocuteurs de la puissance publique n'ont pas manqué de nous dire, mais pourquoi vous vous battez contre un abaissement de la défiscalisation puisque une entreprise sur deux n'est pas intéressée? En réalité, c'est vrai que beaucoup d'entreprises considèrent que cette notion de défiscalisation, cet avantage fiscal, n'est pas leur motivation principale, que ce qu'elles souhaitent principalement, c'est avoir une interaction avec leur écosystème, avec la société autour d'elles, avoir une capacité à créer des liens sur place avec la puissance publique, les collectivités territoriales, avec le monde associatif, éventuellement avec d'autres mécènes ou philanthropes, et puis une capacité à embarquer leurs collaborateurs, on va y revenir parce que c'est une tendance très importante du mécénat aujourd'hui. Et puis, il y avait d'autres phénomènes qui expliquaient cette différence. Le fait que pour les petites et très petites entreprises, il y avait jusqu'à il y a pas tout à fait un an, un obstacle, un plafond qui était inscrit dans la loi, les 0,5% de chiffre d'affaires qui était le plafond de défiscalisation. Alors quand on s'appelle Total ou BNP Paribas, 0,5% de chiffre d'affaires, c'est très élevé et d'ailleurs ces plafonds ne sont jamais atteints par les très grandes entreprises. En revanche, pour les petites et les très petites, c'était une quasi-impossibilité de faire du mécénat défiscalisé parce que quand vous faites 100 000 balles de chiffre d'affaires, bah, évidemment, vous ne pouvez pas faire de mécénat. Pendant des années, pendant pratiquement 5 ans, Admical, ensuite appuyé par quelques autres, s'est battu pour dire il est souhaitable que toute entreprise puisse participer à la construction d'une meilleure société et donc accorder une franchise, le mot n'est pas très bon, mais accorder une enveloppe de défiscalisation qui ne tienne pas compte du chiffre d'affaires. Et quand les conversations ont démarré il y a maintenant pas loin de 2 ans avec Bercy et Matignon, ils nous ont dit bah, on commence la conversation par une super bonne nouvelle. Voilà, vous avez gagné, on donne les 10 000 balles de défiscalisation pour toute taille d'entreprise. Donc ça, on était très contents, mais le sourire s'est vite figé parce qu'immédiatement après, on nous a dit « Ah oui, mais vous comprenez, ça coûte de l'argent ce qu'on est en train de vous accorder et donc il va falloir qu'on récupère ça ». Et c'est là qu'ils ont évoqué leurs intentions sur les grandes entreprises.
Alors que c'est 50% d'entreprises qui ne déclareraient pas leurs dons, hein, d'après vos calculs, c'est un argument envers le ministère pour leur dire, vous voyez bien que ce n'est pas notre motivation principale.
Oui, alors c'est vrai, mais en même temps, il faut quand même faire attention au fait que pour les grandes entreprises, celles qui mettent beaucoup d'argent, là, en revanche, il y a un enjeu, parce qu'effectivement, quand on met des dizaines de millions dans son mécénat, bon, bah, là, il y a un enjeu effectif. Et le point important, celui qu'on a toujours mis en avant pour défendre la défiscalisation et son taux antérieur hein, de 60%, c'est que le mécénat, ça permet de donner plus que ce qu'on donnerait s'il n'y avait pas ça.
Bien sûr.
Je précise une chose, hein, vous donnez 100, vous avez droit à 60 de défiscalisation. Ça veut dire que vous allez gommer 60 de dettes fiscales envers l'État. Mais vous donnez 100. Donc, il y a bien 40 de plus. Et c'est pour ça, et on a été content aussi d'obtenir une petite victoire sémantique qui a été actée par Gabriel Attal en public. On se battait contre le fait que le mécénat soit appelé niche fiscale. Et on disait non, la définition d'une niche fiscale, c'est un dispositif fiscal qui permet à son bénéficiaire de faire des économies. Bah, le mécénat ne permet aucune économie puisque le mécène dépense plus que ce qu'il doit.
Voilà. Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministère Absolument. De l'Éducation, qui est votre interlocuteur, Éducation Jeunesse, dans cette affaire. Alors, on va revenir évidemment sur cette affaire qui est quand même très importante pour vous, puisque ça peut déterminer aussi l'avenir. Mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses quand même dans la vie du mécénat depuis Jacques Rigaud 79, notamment sur ces grandes entreprises. Alors, qui sont-elles ? D'abord, les plus grandes. 81% des grandes entreprises mécènes donc déclarent leurs dons pour le coup. A contrario, les petites sont peu nombreuses à le faire. On va peut-être dire pourquoi. Il y en aurait à peine 2,7%. Enfin, vous venez de le dire en partie. Des TPE, 20% des PME. C'est un chiffre en progression. Les grandes entreprises restent largement les locomotives du secteur, alors que elles représentent un chiffre très petit finalement de ces entreprises mécènes.
Effectivement, mais elles représentent encore.
Mais leur part du budget est de près de
57%.
Les ETI, entreprises de taille intermédiaire, puisqu'on en est.
Les ETI, ça monte.
Il y en a très peu, c'est bizarre.
Je pense qu'il y en aura de plus en plus. Il y a aujourd'hui une organisation, une tête de réseau, comme on dit, pour les ETI, qui s'appelle le METI. Le METI est très engagé, c'est Philippe Dornano qui le préside, très engagé sur cette question du mécénat et bien décidé à relayer ce discours et à entraîner un maximum d'entreprises en région en mettant en avant justement tout le bénéfice que peut apporter le mécénat. Pour l'entreprise, le mécénat, ça n'est pas autre chose qu'un outil. Mais c'est un outil qui, à la fois, va permettre d'apporter des ressources à ses bénéficiaires associatifs et va permettre à l'entreprise de créer du lien avec ce monde qu'elle ne connaissait pas très bien et dont elle souhaite se rapprocher parce qu'elle s'en sent en partie responsable. Et ça, c'est une chose qui est absolument fondamentale aujourd'hui. C'est l'évolution de l'approche de sa responsabilité. responsabilité par l'entreprise. Je pense que c'est une véritable révolution qui est en marche à ce niveau-là. Et l'objectif qu'on peut poursuivre, c'est que toute entreprise, quelle que soit sa taille, puisse mettre sa pierre à l'édifice et contribuer à apporter quelque chose à l'intérêt général, ou ce que Jacques Rigaud avait coutume d'appeler le bien commun. L'intérêt général étant plutôt le domaine régalien de l'État, hein, l'éducation, les transports, la santé, etc. Et le bien commun étant le vivre ensemble. Et là, sur ce vivre ensemble, je pense qu'il est fondamental que chacun, chaque entreprise, quelle que soit sa taille, chaque citoyen, quel que soit son niveau de fortune ou d'infortune, puisse participer.
Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi l'évolution des bénéficiaires, hein, la qualité des bénéficiaires. Trio de tête, je crois que c'est encore vrai, ça l'était peut-être déjà au moment de la création. D'abord le social, puis culture patrimoine, puis éducation, donc ça reste inchangé, cela.
Non, alors ça, c'est pas inchangé du tout. Pendant les 25 premières années du mécénat, jusqu'en 2005, la culture a dominé de la tête et des épaules,
pour les raisons
qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, il y a eu un petit infléchissement à partir de la fin des années 90, j'ai envie de dire, sous l'impulsion des médias, beaucoup, qui ont commencé à se gratter la tête en disant, mais dans le fond, le mécénat, qui est censé être désintéressé, est-ce qu'il l'est tant que ça? De grandes entreprises, on peut citer quelques grands pétroliers, ou on peut citer quelques grandes banques, ont été taxés de greenwashing, et on leur disait, mais dans le fond, vous faites les bons apôtres par devant avec vos actions de mécénat, et puis vous poursuivez vos turpitudes par derrière, comme si de rien n'était.
Et donc, en clair, là vous avez sauté sur l'environnement, hein, qui reste d'ailleurs encore assez peu soutenu
par les
entreprises.
Curieusement très peu soutenu.
Et ce qui avait été, effectivement, je me souviens de ces critiques-là, en gros les pétroliers, on ne va pas citer, mais on les a tous en tête, mais on leur reprochait effectivement la main sur le cœur de se déclarer très impliqués dans les questions d'environnement, de réchauffement climatique aujourd'hui, mais de continuer de soutenir, et les banques pareil d'ailleurs, de soutenir massivement, par exemple, le charbon, ou bien les extractions fossiles.
Alors,
je pense pas
que c'était une bonne approche, parce que le mécénat de ces entreprises était souvent, même presque toujours, un mécénat extrêmement intéressant et qui était utile.
Oui, mais sur les énergies fossiles, par exemple, tout en déclarant que l'environnement était en danger.
Non, pas forcément sur les énergies fossiles, sur d'autres sujets environnementaux qui pouvaient être très utiles. Bon, alors après ça, il y a une vraie interrogation sur le paradoxe qu'il peut y avoir dans ces entreprises, mais du coup, c'est le mécénat qui a été attaqué, alors que c'est le métier même des entreprises qui était plutôt visé par les critiques.
Juste, ouais.
En tout cas, la leçon qu'en ont tiré ces grandes entreprises, c'est que elles mettaient peut-être un peu trop en avant leurs actions de mécénat, qu'elles en tiraient trop de bénéfices de communication, et donc elles ont reflué à ce niveau-là et ont fait moins parler de leurs actions.
Ce qui pour vous était une bonne chose, vous, président de l'Amicale.
Je pense que le vrai mécénat, c'est un mécénat vraiment désintéressé, c'est inscrit dans la loi, et il faut que ça soit comme ça. La différence fondamentale avec l'impôt, c'est que c'est une action volontaire, alors que l'impôt l'est pas franchement. Et la différence avec le parrainage ou le sponsoring, c'est que c'est une action désintéressée, alors que parrainage et sponsoring, par nature, ne le sont pas. Ce sont des opérations commerciales.
Qui souhaitent faire parler d'elles,
voilà,
par définition.
Donc c'est bien que ça ait reflué à ce niveau-là. Le vrai infléchissement dans les domaines suivis par le mécénat, ça a été en 2005, les émeutes de banlieue. Et là, effectivement, au niveau des grandes entreprises, il y a eu une vraie réflexion sur, mais dans le fond, quels sont les problèmes majeurs de la société, et est-ce que en étant à forte dominante culturelle, on passe pas à côté de problématiques qui sont formidablement importantes pour l'avenir de notre pays. Alors ça a démarré en 2005, ça s'est accentué énormément avec la crise de 2008-2010, hein, la crise financière et économique, qui a eu une première conséquence, c'est que le mécénat a reflué énormément, parce que quand ça va mal, la première chose que font les entreprises pour se serrer la ceinture, c'est de supprimer les dépenses volontaires, hein, et pas obligatoires. Donc le mécénat a souffert à ce moment-là. Beaucoup d'entreprises, petites et moyennes, qui faisaient du mécénat, ont cessé d'en faire. Ça s'est pas effondré parce que les grandes ont assumé leur rôle, si je puis dire, et donc n'ont pas beaucoup amputé leur niveau de budget de mécénat. La deuxième conséquence, c'est qu'il y a eu un swing très important. Le culturel a reflué énormément. Le social est venu sur le devant de la scène. Alors, vous avez cité tout à l'heure les chiffres. Hein, le dernier baromètre, 28% social, 25% culturel, 23% éducation. Bon, on peut considérer que social, éducation, c'est quand même très proche. Donc, ça fait plus de 50% pour le domaine social. social. Et derrière ces trois leaders, eh bien, le reste vient très loin. Il y a la santé, enfin, notamment la recherche médicale qui vient derrière.
Assez faible.
L'environnement, oui. Curieusement assez faible, alors que c'est la une des journaux en permanence. Et puis, des domaines complètement oubliés, y compris la recherche, qui sont aujourd'hui très peu servis par le mécénat. Et avec des oubliés du mécénat, presque, qui sont la grande dépendance, qui sont la maladie mentale, qui sont les droits de l'homme et du citoyen, les secteurs qui font un peu peur. Ça, c'est aussi un sujet. Je pense qu'il faudrait amener le mécénat à s'intéresser à toutes les problématiques de société. Le grand âge en est évidemment un aspect très important. La maladie mentale, pareil. Donc, il y a encore des progrès à accomplir à ce niveau-là.
Sur le domaine du social, c'est vrai que maintenant, on voit beaucoup d'entreprises s'engager dans, par exemple, l'aide à la création d'emplois, ce qui est quand même de leur domaine d'expertise, bien sûr, ou l'aide à l'entrepreneuriat social, qui est aussi un volet important. Alors, vous, Admical, par exemple, ou d'autres associations, comme les vôtres, peut-être moins importantes, mais également très actives, quel est votre rôle là-dessus? Comment pouvez-vous intervenir auprès des entreprises? Est-ce que vous les incitez à aller davantage dans telle ou telle direction? Vous venez de parler du grand âge, mais même dans ce domaine-là, du social.
Alors, notre travail, c'est de faire de la sensibilisation. La feuille de route d'Admical, elle se décompose en deux volets. Un volet développement du mécénat et un volet accompagnement des mécènes. Alors, développement du mécénat, ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, travailler sur le cadre législatif, juridique et fiscal. Donc, c'est un travail qu'on peut qualifier de lobbying, même si le mot n'est pas très joli aujourd'hui. Bon, c'est ce qu'a fait Admical depuis toujours. Et à l'époque de Jacques Rigaud, Jacques et Admical ont collaboré énormément avec Jean-Jacques Ayagon pour la préparation de la loi Ayagon qui a posé ce cadre extrêmement favorable en 2003. Donc ce travail-là, aujourd'hui, il nous occupe énormément parce que justement, il y a de nouveau des préoccupations à ce sujet et le risque de... Enfin, c'est pas le risque, maintenant, c'est la certitude que la loi, telle qu'elle existait depuis 15 ans, soit effectivement... soumise à un coup de rabot pas complètement négligeable, loin de là. Le deuxième aspect de ce développement du mécénat, c'est un travail que je qualifierais d'évangélisation, amener de plus en plus de ces fameuses 91% d'entreprises qui ne sont pas mécènes aujourd'hui à devenir mécènes. Il y a 3 ans, j'ai lancé un tour de France des mécènes. On a pris nos cannes et nos chapeaux et on est parti en région, dans des villes petites, moyennes ou grandes, pour faire des sessions d'évangélisation devant des parterres d'entreprises.
Et auprès d'entreprises, donc petites et moyennes.
Petites et moyennes.
Et pas très grandes.
Non, petites et moyennes. On s'est fait aider pour ça par les têtes de réseau locales, les CCI, les MEDEF, les CJD locaux, etc., qui nous ont aidés à réunir des parterres, qui ont été conséquents partout, même dans des petites villes. On a eu le bonheur de voir les édiles, et notamment les maires, être très présents à ces soirées-là, et venir dire de façon très claire à quel point le mécénat était quelque chose d'important pour eux. Pour nous, c'était fondamental. L'idée, c'était d'apporter du grain à moudre pour ces entreprises, de leur démontrer, mais ça, elles le savaient en général déjà, que le mécénat, c'est utile à la société, mais que c'est aussi très bon pour l'entreprise elle-même, parce que justement, ça lui permet de créer des liens, ça lui permet d'embarquer ses collaborateurs, ça lui permet d'aller vers un projet de société qui, de plus en plus aujourd'hui, est inclus dans la stratégie des entreprises.
Avant d'aller plus loin sur l'actuel, sur ce qui est en train de se passer maintenant, sur ce que vous souhaitez voir maintenant se passer au niveau du mécénat, un petit retour en arrière vers le domaine plus strictement culturel, François Debiès.
En soutenant la vie culturelle, les entreprises souhaitent en tirer des avantages, fiscalement d'abord. En 85, Bérégovoy aux finances fait un premier pas. En notoriété aussi. La Fondation Cartier est l'exemple d'une opération de gestionnaire. Objectif, le rayonnement mondial de Cartier et replacer la marque dans son époque. Les commandes d'œuvres à des artistes contemporains l'attestent. Mais ces nouveaux mécènes sont-ils protecteurs ou dictateurs?
Je suis pas très bavard, sur le mécénat. Moi, je crois qu'il faut... Autrefois, c'était les papes, les princes, les rois. Mais aujourd'hui, les rois, c'est Coca-Cola, c'est Ford, c'est Cartier.
Dans les années 70, l'Association pour le développement du mécénat industriel a contribué à l'éclosion d'opérations. Johnson avec le théâtre, le Crédit Agricole avec la Fondation des Pays de France, mais encore le Crédit Lyonnais, le Crédit Foncier, des banques soucieuses de donner une meilleure odeur à leur argent. Le mécénat peut être aussi un outil de communication interne, comme l'a inauguré Peter Stuyvesant avec son usine-musée aux Pays-Bas et ses 700 œuvres qui circulent dans les différents sièges de la société de par le monde. Quant à EDF, son mécénat technologique est digne d'intérêt. Preuve, l'intervention récente de son bureau d'études et de recherche dans la Grande Pyramide. L'entreprise valorise ses connaissances en les transférant vers le milieu culturel qui accède à des moyens hors de sa portée. Là, c'est un juste retour aux sources. Les pharaons aussi étaient des mécènes.
France Culture, matière à penser, Dominique Rousset.
Et la suite donc de notre série autour du don, de la charité, du mécénat, de la philanthropie. Et nous sommes en compagnie de François Debiès, président de l'ADMICAL, une association importante qui soutient le mécénat d'entreprises et qui l'encourage. François Debiès, d'ailleurs, vous l'avez pas reconnu, mais c'est César qu'on entendait nous dire autrefois, c'était les rois.
Ben, il avait raison.
Et il n'avait pas tort. Et donc les pharaons, effectivement, avant lui. Et aujourd'hui, eh bien oui, c'est Cartier. Du temps de la Fondation Cartier, d'ailleurs, il n'y avait pas eu toutes les polémiques que l'on voit aujourd'hui autour de Louis Vuitton. On va en parler tout de suite. Ça date de 87, cet archive que nous venons d'entendre. De votre point de vue à vous, ça a été dit, c'est cette création de la Fondation Vuitton, avec des moyens extrêmement importants, qui a un peu fait tiquer le gouvernement et entraîné ces dispositions, donc qui sont maintenant actées. Est-ce que vous reconnaissez, ou est-ce que vous pensez, je ne sais pas bien comment qualifier votre position, que peut-être c'est allé un petit peu loin, cette somme dépensée autour de la Fondation Vuitton, et donc ce retour des fiscalisations qui amenait finalement l'État, donc le contribuable, à financer une très vaste partie. Et plus largement, on va parler aussi du rapport à d'autres musées nationaux, pour le coup, face
Alors,
à ces fondations privées.
Il y a effectivement plusieurs niveaux d'analyse hein, sur ce sujet-là.
On parle de la fondation, je le dis, pardon, pour ceux qui ne l'auraient pas encore visité, ils sont nombreux sûrement quand même, qui se trouve aujourd'hui à Paris 16e et qui propose des expositions magnifiques.
Alors, il y a plusieurs niveaux d'analyse. Bon, cette opération a été coûteuse, plus que ce qui avait été prévu au départ.
Très au-delà de ce qui était prévu.
Très au-delà de ce qui avait été prévu au départ. Mais, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je réinsiste, tout ça s'est fait dans une parfaite harmonie avec l'administration de Bercy. Tous les accords ont été donnés. Et donc, c'est une réflexion a posteriori qui est née, vu l'importance du dossier et donc ce que représentait ce qu'on n'appelle plus aujourd'hui une niche fiscale, mais la dépense fiscale. Il y a une interrogation à ce niveau-là. Une grande partie du coût était liée à un travail de construction. Bon, il y a tout un partenariat qui a été fait avec la ville de Paris. Le bâtiment va revenir à la ville de Paris dans une cinquantaine d'années, je crois. Mais il y a une interrogation.
Vous êtes d'accord que c'était un peu excessif, cette somme
Je dirais pas excessif. C'était très cher. Et on peut se poser des questions. On peut encore honnêtement se poser des questions sur, par exemple, est-il normal que le bâti soit pris en considération, je parle pas spécifiquement de ce dossier-là, mais en général, soit pris en considération dans le mécénat. C'est une vraie interrogation et sur laquelle j'ai pas de philosophie arrêtée. On peut vraiment se poser la question. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est, disons, d'agacement, c'est la notion de désintéressement. Bon, bah, ce qui se dit, c'est, regardez, quand on arrive au Bois de Boulogne, au-dessus de la porte, il y a écrit LVMH en gros lumineux, et donc c'est une opération de promotion et de publicité pour ce grand groupe de luxe. Là aussi, il y a une question qui peut se poser, effectivement, et je crois que en toile de fond de ces considérations-là, il y a la question de l'éthique du mécénat. Il ne peut pas y avoir de mécénat sans une éthique forte, reposant sur des bases stables, admises par tout le monde, et qui permettent d'éviter les excès. Des excès, il y a pu y en avoir. Hein. Il y a eu une grande émotion autour du mariage d'un grand patron d'entreprise automobile à Versailles. Il y a eu quelques précédents au Louvre avec un entrepreneur coréen un peu douteux qui se prétendait photographe. Bon, voilà, il peut y avoir des dérives, il peut y avoir des excès, et il est fondamental qu'il puisse y avoir un jugement sur une opération de mécénat et qu'une instance puisse dire, eh ben là, oui, on est bien dans les clous, ou là, non, on est sorti, on a passé la ligne jaune, et donc il n'y a plus matière à défiscalisation, on est dans une opération de promotion.
Vous avez fait une charte du mécénat.
On a fait une charte de mécénat il y a 10 ans. Aujourd'hui, cette charte est dépassée et nous avons décidé de relancer un travail avec une participation à géométrie variable de la puissance publique, parce que c'est important qu'elle soit présente aussi, hein, puisque c'est l'administration fiscale qui va, au bout du compte, être partie prenante hein, sur des projets de mécénat. Mais nous considérons qu'il y a besoin d'avoir un référent plus important, plus précis sur ces opérations-là, de façon à bien dire où est la ligne jaune à ne pas dépasser. Et puis, il y a un troisième niveau d'analyse qui est-ce que, finalement, une grande institution culturelle comme ce qu'est aujourd'hui la Fondation Louis Vuitton est en train de développer, de mettre en œuvre une politique culturelle privée, entre guillemets, concurrente de la politique culturelle publique. Moi, à ce niveau-là...
Une sorte de concurrence déloyale envers les grandes institutions, les musées nationaux.
Concurrence déloyale pour cause de moyens différents, plus importants.
Ça a été avancé aussi, hein, François de Biesse, comme vous le savez.
Ça a été avancé aussi. Mais, premièrement, moi, je ne considère pas que ça soit concurrent. Je pense que c'est complémentaire. Quand 1,3 million de personnes vont visiter l'exposition Stuckin au Bois de Boulogne, eh bien, il y en a un très grand nombre de ces gens-là, notamment ceux venus de l'étranger, qui vont aller aussi à Orsay, à Pompidou, à Versailles. Donc, on est dans une politique complémentaire. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec des responsables de grands musées nationaux ou des responsables de mécénat dans ces mêmes grands musées nationaux, disant, même si nous avions eu les moyens de faire l'exposition Stuckin, on n'aurait pas pu le faire parce qu'on n'avait pas les réseaux, il y avait tout un tas d'autres considérations qui ne permettaient pas de le faire. Donc je pense qu'on est dans une approche de complémentarité plus que dans une approche de concurrence et que dans le fond, ce nouveau navire amiral de la culture française et de l'art dans Paris, c'est un plus pour attirer plus de gens à l'art, pour attirer plus de touristes vers Paris et donc globalement, je pense que c'est bénéfique. Et puis derrière ça, il y a un combat d'arrière-garde sur la politique publique. Est-ce que la politique publique doit rester l'affaire exclusivement de la puissance publique ou est-ce qu'il faut y embarquer en partie des parties prenantes privées, entreprises ou particuliers, philanthropes, etc. Parce qu'une partie de la ressource est là, et quand je dis ressource, c'est pas uniquement financière, mais c'est également humaine, pour construire une société différente. Et là, on est dans une problématique de la société française très particulière, avec un historique très important, et qui ne poussait pas justement à cette complémentarité, à ce travail collectif entre public et privé. Et aujourd'hui, je pense que c'est un sujet qui est complètement d'actualité.
Dans l'air du temps, comme on dit. François de Biesse, justement, ça nous amène aux différentes formes du mécénat. Donc, on parle de mécénat financier, hein, très puissant dans le cas des grandes, de celui que vous souhaitez voir se développer en région. Et on a mis en avant la proximité qu'il faudrait maintenant souligner et accompagner. Et puis, il y a aussi le mécénat en nature. C'est juste des versements, mais ça représente une somme assez faible, je crois.
C'est très important dans le secteur alimentaire. Hein. Attention, les dons alimentaires, c'est quelque chose de fondamental. Et pour toute la grande distribution...
Et pour les individus, là, vous dites, pour l'instant,
pour les individus, oui. Voilà, non, mais pour la grande distribution, le mécénat en nature, c'est du don de produits alimentaires, purement et simplement. Hein. Et ça rentre dans le mécénat.
C'est-à-dire on leur demande de ne pas jeter les restes comme ça a été fait autrefois.
Alors, ça a été interdit, effectivement. À côté de l'interdiction de détruire. Il y a eu l'autorisation de le rentrer en mécénat, donc avec une défiscalisation à la clé. Et d'ailleurs, l'importance de ces dons alimentaires pour la partie la plus précaire de notre société a été actée par les évolutions récentes de la loi sur le mécénat, puisque de ce fameux plafond de 2 millions au-delà duquel le taux de défiscalisation tombe de 60 à 40, ont été sortis les dons en nature, précisément les dons dits loi Coluche, ceux qui vont vers les plus fragiles.
Pas sous le même régime que les grandes entreprises dont nous parlions auparavant. La loi Coluche, en effet, je voulais la rappeler. Et puis, il y a ce qu'on appelle le mécénat de compétences. Et là, peut-être que ça va dans le sens de ce que vous disiez, une évolution de la société, peut-être de plus en plus préoccupée par les grands sujets environnementaux, sociétaux. On va dire un mot aussi de la responsabilité sociale, environnementale, à ne pas confondre avec le mécénat, mais qui s'en rapproche. Le mécénat de compétences, c'est quoi au fond ? C'est d'intéresser les salariés des entreprises, quelle que soit leur taille, en les encourageant à se déterminer vers certains domaines.
Voilà, c'est exactement ça. Alors, le point de départ...
C'est sensible. Hein.
On parlait tout à l'heure de la société française fracturée. Il y a en France 1,6 million d'associations et il y a 20 millions de bénévoles. 20 millions de bénévoles hein, sur 68 millions de personnes en France aujourd'hui.
C'est beaucoup.
Bon, c'est beaucoup. Alors, certes, il y en a certainement un très grand nombre qui donnent 2-3 heures par an, mais en tout cas, 20 millions de bénévoles déclarés. Quand on rapproche ça de l'état de la société française fracturée, et je trouve que la plus belle illustration qu'on puisse en donner, c'est ce livre de Jérôme Fourquet qui vient de sortir, qui s'appelle L'archipel français. Et je trouve que cette image de l'archipel est extrêmement parlante. Hein. Des petites îles séparées par de l'eau, sur chacune de ces petites îles, une communauté, les communautés qui s'y ignore, quand elle se balance pas des pavés à la figure. C'est ça la société française d'aujourd'hui. Il y a un paradoxe, je trouve, entre cette fracture d'un côté, et puis la volonté d'engagement de ces 20 millions de bénévoles. Alors dans les entreprises, il y a un phénomène très important qui a démarré il y a une dizaine d'années, je dirais, ou on peut dire depuis le début du 21e siècle, dans l'approche que la jeune génération a de sa vie professionnelle. Aujourd'hui, quand un jeune sorti de ses études rentre dans la vie professionnelle, c'est lui qui va mettre un petit peu son interlocuteur DRH sur le grill. Parce qu'il va lui poser des questions, bien sûr, naturelles, normales, sur son niveau de salaire et sur l'intérêt de son boulot, mais il va lui poser des questions sur la capacité d'engagement que l'entreprise va lui donner. Et
sur l'éthique de l'entreprise, vous en parliez tout à l'heure.
Et ce que souhaitent aujourd'hui les jeunes collaborateurs, c'est avoir, à travers les engagements de leur entreprise, donc à travers leur partenariat de mécénat, la capacité eux-mêmes de s'engager pour donner du sens à leur vie professionnelle. Cette notion-là, elle est fondamentale, et tellement fondamentale que les DRH qui ont longtemps été plutôt réservés, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le mécénat de compétences, ont pris conscience qu'aujourd'hui c'était tellement important qu'il fallait absolument lâcher du lest dans ce domaine-là, parce que ça devient un facteur à la fois d'attraction et de fidélisation des collaborateurs.
Alors concrètement, comment ça se passe? Une moyenne, si possible.
Alors, ça peut être une moyenne, effectivement, un partenariat avec une ou plusieurs associations. Ces associations, il faut avoir conscience qu'elles ont des besoins. Les associations, elles n'ont pas suffisamment de besoins financiers, mais elles ont aussi un très grand besoin de compétences, parce que le monde associatif a vécu depuis toujours sur des valeurs plus que sur des compétences. Alors que l'entreprise vivait plus sur des compétences que sur des valeurs. Et le rapprochement des deux mondes est quelque chose de très intéressant parce que ça permet le mix justement, ça permet une remontée de valeurs venant du monde associatif dans l'entreprise et une descente de compétences dans le monde associatif. Alors ces compétences, elles sont dans plein de domaines différents, tout ce qui concerne la gestion, mais il y a aussi dans les registres les plus contemporains, si je puis dire, en matière de digital, il y a tout un apprentissage à faire, il y a toute une révolution à accomplir pour lesquelles la compétence qui est dans l'entreprise peut venir aider l'association.
Ce qui veut dire que l'entreprise dégage des heures, par exemple, pour le salarié,
donc
pour
le
qu'il
mécénat
se mette
compétence,
à disposition de l'association.
Le mécénat de compétence, c'est sur le temps de travail, contrairement au bénévolat de compétence, qui aura le même résultat, mais qui, pour la personne, est sur son temps libre. D'ailleurs, on se rend compte que dans les entreprises, notamment dans les grandes, qui ont, disons, plus de temps et plus de moyens, le mécénat de compétence, souvent, sort du bénévolat de compétence. On commence par du bénévolat, il y a beaucoup de collaborateurs qui s'engagent, etc. Et puis un jour, on va passer du bénévolat au mécénat. Les collaborateurs sont détachés dans l'association aux frais de l'entreprise pendant des temps qui peuvent être très variables. Alors ça peut être soit des longues périodes, un an ou deux ans, soit c'est un jour par mois, soit c'est une semaine par trimestre. Enfin bon, ça peut prendre des formes très variées pour aller apporter un renfort de compétences à ces associations qui aujourd'hui ont pris le pli, si je puis dire, de demander des missions. Elles sont demandeuses aujourd'hui, elles ont pris conscience des progrès qu'elles avaient accomplis dans certains domaines de la gestion, sans viser à devenir des entreprises, elles ne seront jamais des entreprises puisqu'elles sont sans but lucratif, mais en revanche, la méthodologie, la rigueur de gestion des entreprises peut leur être extrêmement utile, elles en ont pris conscience, donc elles savent de quoi elles ont besoin. Elles sont capables de définir une feuille de mission, qui est comme une sorte d'appel à candidature de mécène aux entreprises, et qui vont se rapprocher de leurs collaborateurs et essayer de trouver la bonne adéquation entre le collaborateur et le besoin.
Ça paraît effectivement très intéressant, en tout cas très contemporain, si j'ose dire. Et puis, c'est vrai que ça vient du besoin des salariés qui demandent souvent le temps qu'elles auront pour leur vie privée, pour la vie associative et pour les valeurs qu'elles défendent. Et qui exigent aussi, évidemment, que l'entreprise respecte ces valeurs, ce qui nous amène à la responsabilité sociale, environnementale, qu'on rapproche et qu'on confond parfois un peu avec
le mécénat. Alors là aussi, il y a une question d'éthique sur le mécénat de compétences, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le mécénat de compétences soit utilisé par l'entreprise pour régler ses problèmes de RH.
C'est ce qu'on dit, c'est un des risques.
Le risque peut exister, effectivement. Aujourd'hui, le mécénat de compétences s'est beaucoup développé sur la génération la plus âgée, c'est-à-dire celle qui est en train de préparer son départ à la retraite. Bon, il ne faut pas que ça soit pour l'entreprise l'occasion de se débarrasser, entre guillemets, de collaborateurs qu'elle ne sait plus comment utiliser. Ça serait...
En les envoyant travailler dans une association.
Ça serait très mauvais.
Oui, parce que vous parlez des jeunes, mais là, pour le moment, c'est plutôt des vieux qu'on s'occupe.
Mais alors, revanche, ça a un vrai avantage pour le monde associatif, parce que ça prépare ces gens, pendant les 4 ou 5 dernières années de leur vie professionnelle, à s'engager dans le monde associatif, et ça leur permet, une fois qu'ils sont à la retraite, de poursuivre. Et cette génération-là, elle est extrêmement importante pour le monde associatif, et d'ailleurs, d'ailleurs, on peut se dire que si par hasard, l'âge de la retraite venait à être décalé de 4 ou 5 ans, eh bien ça serait lourd de conséquences pour mon associatif. Parce qu'il n'est pas sûr du tout qu'à 66 ou 67 ans, les gens aient la même envie de s'engager dans l'association qu'ils pouvaient l'avoir à 61 ou 62 ans.
C'est clair, mais il faudrait alors donc entraîner peut-être beaucoup plus de jeunes vers ces actions.
Alors voilà,
il y a
aujourd'hui, donc le médecin de compétences s'est diversifié et il y a des temps où, par exemple, un moment où quelqu'un va changer d'orientation dans sa vie professionnelle ou au sein de la même entreprise, où il peut y avoir un break qui permet de faire effectivement du médecin de compétences. Et puis il y a des gens qui le rendent compatible avec leur vie professionnelle au long cours et qui donc décident de consacrer un jour par mois, par exemple, à ce médecin de compétences. Et ça, les entreprises maintenant l'admettent de plus en plus, certaines à grande échelle, Orange, Accenture, IBM sont de grands spécialistes du mécénat de compétences, d'autres de façon plus limitée, y compris dans les PME, parce que là, les patrons de PME, notamment en région, ou même de petites entreprises, ont bien compris que c'était pour elles, ces entreprises, une occasion effectivement de renforcer leur lien avec leur écosystème.
On parle aussi de responsabilité sociale et environnementale, ça rentre dans la partie éthique aussi de la vie de l'entreprise. Là encore, vous l'avez dit vous-même, certaines entreprises ont fait un peu de greenwashing. Est-ce qu'il vous semble que le mécénat est un outil plus adapté pour permettre à l'entreprise de retrouver déjà du crédit auprès des citoyens? Vous avez vous-même déploré le fait qu'elles étaient mal aimées encore aujourd'hui. Peut-être mieux intégrer l'entreprise de façon plus positive dans son environnement avec le mécénat, plus facile qu'avec la RSE.
La RSE, quand
RSE,
on regarde,
donc responsabilité sociale environnementale.
La RSE, quand on regarde vraiment son contenu, c'est quelque chose qui est autofocus. C'est une obligation faite à l'entreprise de faire honnêtement son métier, dans le respect de ses parties prenantes, dans le respect de l'environnement, dans le respect de la loi, évidemment. Mais c'est auto-centré. Et ça a démarré il y a, disons, une vingtaine d'années, au début des années 2000. Il y a un seul cas qui était antérieur, c'était dans AXA, parce que Claude Bébéard avait été d'emblée assez visionnaire. Et alors que tout le monde, à l'époque, dans les années 80, se ruait sur le mécénat culturel, lui avait déjà une vision, qui était une vision de RSE. Il ne s'appelait pas encore RSE, mais c'était déjà ça.
Et d'ailleurs, environnemental.
Et d'ailleurs, AXA est la seule de ces grandes entreprises qui n'a pas de fondation, parce qu'il avait opté pour d'autres moyens d'action. Aujourd'hui, je pense que l'entreprise est en train de passer de la responsabilité sociale, autofocus, à la responsabilité sociétale, qui, elle, va être tournée vers l'extérieur, vers l'environnement de l'entreprise, vers la création de liens et vers la nécessité de prendre en compte les problématiques de la société, qu'elles soient sociales ou environnementales. Enfin, c'est les deux sujets qui sont principalement évoqués. Le gouvernement s'est posé la question de savoir s'il fallait faire évoluer la loi à ce niveau-là, puisqu'ils ont regardé l'opportunité de faire évoluer l'article du Code civil qui définit l'objet social de l'entreprise comme étant au service exclusif de ses actionnaires. Fallait-il ouvrir le texte et dire « service des actionnaires et œuvre d'intérêt général, bien commun, etc. » Bon, pour le moment, ils ont opté pour ne pas modifier le code civil. Mais en revanche, de nouveaux statuts d'entreprise, les entreprises à mission, on a travaillé sur la raison d'être des entreprises et on intègre de plus en plus maintenant des considérations d'ordre sociétal dans la façon dont l'entreprise peut être gouverné, c'est-à-dire sa gouvernance propre, c'est-à-dire la répartition de ses résultats, c'est-à-dire la prise en compte de critères sociétaux, la parité, la diversité. On est en train de marcher petit à petit vers une entreprise plus sociale.
Ce qui plaide aussi en faveur des plus petites entreprises et des moyennes entreprises que l'on souhaite voir rejoindre le mécénat. Même si, on l'a bien compris, en termes de volume financier, évidemment, la part reste largement du côté des grandes. Eh bien, merci François de Bias d'être venu nous trouver pour donc l'ADMICAL, une des associations, on l'a dit, il y en a d'autres aujourd'hui, qui défendent donc ce mécénat d'entreprise et qui vont bien devoir se plier aux dispositions nouvelles adoptées par ce gouvernement. Mais tout ce que vous venez de nous dire là, au fond, n'est pas forcément impacté. En tout cas, devrait continuer à se développer. On l'espère pour vous. Et merci aussi à notre équipe de ce soir, Anne-Laure Chanel qui réalise l'émission, en compagnie aujourd'hui d'Éric Carrère et bien sûr Sandrine Chaperon, Catherine Donnet pour la préparation, pour la documentation. On retrouvera toutes les informations pour les associations autour du mécénat et bien entendu autour de l'ADMICAL dont nous avons rencontré le président aujourd'hui. Nous nous retrouvons nous demain pour la suite de notre série. Il sera question de philanthropie. Et surtout, bonne soirée et très bonne année à tous.